you find it when you went into meetings?
For our purpose, it is Carlton Samuels, who is leading
Scribe purposes, it is Carlton Samuel who's leading the call. Thank you. Carlton, if you would just let us know when we can get started. Thank you.
In about 10 seconds.
Did you want the recording?
Donc, vous voulez qu'on commence à enregistrer? Oui, s'il vous plaît, oui, oui. Oui, à... Eh bien, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit à tout le monde. Merci de vous joindre à cette réunion. Nous allons maintenant parler un petit peu du soutien aux dépositaires de dossiers de demande du groupe de travail et vous donner une idée de la prochaine étape. Nous allons parler en tant que co-président de la séance. Nous sommes soutenus au niveau du personnel par Glenn. Avec moi, Cess et Matt, Glenn de Saint-Géry et Carole. Donc beaucoup de personnes. Et Cess est là, est également là. Et Matt et Gisela. Gisèle, oui, nous savons donc beaucoup de membres du personnel. Nous aimerions donc vous donner un petit peu des informations pour vous mettre à jour, pour mettre en contexte cette réunion. Et nous avons préparé quelques transparents à ce sujet qui vous permettront donc de mieux comprendre la situation avec Rafik. Nous allons commenter un petit peu ces transparents PowerPoint et nous allons demander à notre collègue qui a fait un travail très important pour ce groupe de travail, Evan Leibovitch, de prendre la parole parce qu'il est en mesure de suivre un petit peu, de rédiger certains de ces documents et également de suivre un petit peu toutes ces mises à jour depuis la réunion que nous avons eue à Singapour il y a un petit peu plus tôt et nous allons être en mesure de répondre à des questions et de parler de la situation à venir pour les groupes de travail. Donc c'est une présentation que vous pouvez suivre en ligne. Vous allez utiliser Adobe Connect comme logiciel. Si vous allez à la page de l'ordre du jour et que vous cliquez sur cet ordre du jour, au bas de la dernière page, vous allez trouver cette présentation. Donc, vous avez l'ordre du jour. Et voilà ce que nous allons couvrir. Nous allons voir le contenu et je passe, donc ça c'était l'ordre du jour, je vais passer au prochain transparent, la prochaine diapositive, voilà, et voilà. Très bien, donc pourquoi soutenir aux personnes qui viennent de déposer un dossier de demande? Un soutien. Il y a une ligne de conduite, une déclaration en juin 2008 qui nous dit que ICANN doit mettre en place une réduction des prix pour les dossiers de demande provenant d'économies moins avancées selon les termes tels que définis par les Nations Unies et à la réunion de Nairobi. Résolution numéro 20 du Conseil d'administration datant de mars 2010. Afin de développer une approche durable pour fournir un soutien à ces personnes, en février 2011, le GAC a lancé un soutien et il y a une déclaration au sujet du GAC pour soutenir la réduction de ses frais pour les applicants les plus défavorisés. Et donc, vous avez le tableau chronologique des activités du groupe de travail JAS pour 2010 qui s'affiche à l'écran. Et si vous regardez en haut, vous avez donc l'annonce publique. Depuis, nous avons travaillé en tant que groupe de travail et nous avons eu des conférences téléphoniques deux fois par semaine. Et beaucoup de travail a été effectué par nos bénévoles. Et il a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour effectuer cela. Ces conférences téléphoniques représentaient beaucoup de travail. Nous sommes arrivés au point où... Prochain transparent, s'il vous plaît. Résolution du conseil d'administration. Vous avez la signification et le plus important, c'est la demande. Comment dire cela? Excusez-moi, je ne trouve pas le bon terme, mais nous avons une situation où le GNSO et ALAC sont des organisations qui n'ont pas toujours le même point de vue. Ils n'ont pas d'accord sur le suivi à assurer, sur l'expansion de cette charte. Il y avait des problèmes associés avec l'ajout d'items à la charte et ça n'a pas été facile. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Si l'on arrive au mois de mai, pour arriver au mois de mai, nous avons eu une série de réunions, de compromis. Et ce qui est significatif dans tout ça, pour atteindre nos objectifs, nous sommes maintenant au mois de juin et... En juin, nous avons produit donc le grand rapport qui avait donc quelques questions qui avaient été posées pour clarification de la part du GNSO et nous avons fourni ces réponses au GNSO. Et depuis, nous sommes arrivés à Singapour. Et il y a eu de nouveaux développements à Singapour, à la conférence de Singapour. Et je vais donc laisser la parole à Rafik pour qu'il prenne le relais. Merci Carlton. Donc je ne vais pas tout vous lire, ne vous inquiétez pas. Mais le principe, un problème, c'est qu'on montre bien le soutien de la part de ALAC, soutien au travail du JAS, du groupe de travail JAS. Et sur le transparent suivant, nous voyons donc ce qui a été effectué par le conseil GNSO. Et nous avons le dernier rapport, le grand rapport qui a été produit par le groupe de travail. Et il me semble maintenant que nous arrivons à une partie substantive de la présentation. Transparent suivant. Nous allons suivre pour le reste de la présentation la structure du rapport en 5 parties. Expliquer pourquoi il faut fournir un soutien aux applicants. Quand devons-nous fournir ce soutien ? Qui est compétent pour obtenir ce soutien et comment nous évaluons donc les dossiers de demande, quel type de soutien reçoit les dépositaires de dossiers et comment fonctionne le processus et comment il est en rapport avec le programme des GTLD. le programme de manuel du candidat et de guide du candidat des GTLD. Comme je l'ai dit auparavant, je crois que ce soutien doit être offert. Nous avons donné quelques raisons. Ce nouveau programme des GTLD doit être inclusif et le marché qui existe représente des inconvénients pour certains applicants qui viennent pour de communautés moins avancées et il n'y a aucune garantie qu'il y aura un deuxième round. Enfin, nous pensons qu'il y aura beaucoup de demandes pour des nouveaux GTLD, y compris des noms de domaine internationalisés. Ici, nous décrivons qui est éligible. Nous pouvons définir cinq descriptions, pas cinq critères, mais cinq descriptions, dirais-je, de personnes pouvant recevoir le soutien. Donc, une personne qui est soutenue par une association à but non lucratif, et cela répond donc à la mission de service, mais aussi le soutien pour les organisations et les communautés linguistiques distinctes, ethniques, communautés ethniques, et lorsque la présence de l'Internet est limitée, troisième service, et je pense que nous devons donner une opportunité également aux entrepreneurs locaux qui ont démontré qu'il y a un bénéfice social dans ces régions géographiques où les marchés sont limités et il est plus difficile de fonctionner. Et également, fonctionner dans un marché émergent, une nation d'une manière qui fournit un avantage social très clair et authentique au niveau de la collectivité. Il est extrêmement important que les dépositaires de dossiers, que les applicants montrent bien qu'ils ont un besoin financier de soutien et donc que ces candidats montrent bien qu'ils sont là pour soutenir le public. Oui, l'intérêt public, le service envers l'intérêt du public, les capacités financières doivent être démontrées, et les besoins financiers doivent être démontrés également. Donc, au transparent suivant, nous avons défini les personnes qui ne reçoivent pas un soutien, qui ne devraient pas recevoir un soutien. Excusez-moi, un petit peu d'attente à ce niveau. Eh bien, nous avons un petit problème technique pour ceux qui sont dans le cyberespace. Nous allons poursuivre néanmoins. Donc, merci. Sur ce transparent, cela nous indique les personnes qui ne devraient pas recevoir de soutien, par exemple, si cela provient d'un gouvernement ou d'un dossier de demande para-étatique, ça il faut voir la demande de plus près pour voir si on donne un soutien ou pas à ce dossier de demande. Nous avons également le cas où nous avons une chaîne TLD qui est basée et en rapport avec une marque déposée. Donc ça, c'est pour une enseigne, par exemple. C'est ce qu'on appelle les dot brand TLD. Une chaîne qui est basée sur un nom géographique ne doit pas recevoir non plus de soutien. S'il y a des partenaires ou des sponsors, des parrains qui sont en faillite ou qui sont protégés par la loi sur les faillites, qui ont des problèmes financiers, partenaires ou parrains qui sont l'objet d'une enquête criminelle ou qu'ils sont en procès, par exemple, et également les personnes incapables et n'étant pas en mesure de répondre aux lignes de conduite et aux procédures de due diligence, donc de zéler, aux procédures importantes du guide du programme, du guide et du manuel du candidat. Donc, quels sont les avantages que les dépositaires de dossiers peuvent recevoir? Quels sont ces... Les avantages sont représentés par un éventuel soutien financier provenant de l'ICANN qui peut prendre la forme d'une réduction des coûts, de frais étant échelonnés, ou bien d'un remboursement partiel de toute somme obtenue à la suite d'une vente aux enchères. Et donc, nous avons dit que il y aurait et qu'il devrait y avoir un soutien financier de la part de l'ICANN, mais également un soutien non financier de la part de l'ICANN. Et également, nous devrions demander aux membres de la communauté, aux parties tierces, de fournir un soutien à ces personnes, ce qui serait facilité par l'ICANN. Et nous pourrions ainsi avoir un vivier de ressources collectées et également un système de référence pour les applicants qui sont au niveau, un soutien technique également pour l'IPv6 au niveau du soutien financier pour continuer dans ce thème. Il doit être distribué par un fonds de développement provenant de l'ICANN. On est encore en train de parler des modalités de fonctionnement de cela. Et enfin, nous devons avoir un soutien financier distribué par des agences externes de financement comme la Banque mondiale ou toute autre agence qui veut bien soutenir un dépositaire de dossier de bon niveau et approprié. Nous passons maintenant au transparent suivant sur le processus d'évaluation et le rapport avec le manuel du candidat. Comment est-ce que l'on va évaluer le candidat? Il y a certaines inquiétudes dans la communauté à ce sujet, l'impact que cela va avoir sur le dossier de demande et la candidature en utilisant donc le guide du candidat. Nous allons utiliser un processus parallèle qui n'aura que très peu d'impact sur ce manuel du candidat. Et nous avons également le sentiment que si un un applicant reçoit un soutien et connaît le succès, eh bien, il pourra rembourser, s'il connaît le soutien, le succès financier, il pourra rembourser un petit peu cela. Alors, prochaines étapes. Nous allons publier notre deuxième grand rapport qui sera ouvert aux commentaires publics. Et à la suite des commentaires publics, nous aurons la communauté qui va développer un nouveau rapport et qui placera ce rapport auprès de toutes les organisations ayant des chartes. Si vous êtes ici à Singapour, vous savez que le directoire prendra en compte avec des résolutions sur le jazz, le travail qui est effectué, quelques points qui ont été soulevés. Les 2 millions de dollars, le fonds de 2 millions de dollars pour aide, pour un fonds de départ pour aide aux pays en voie de développement. On espère avoir beaucoup de sommes obtenues à ce niveau. Le PDG nous a indiqué qu'ils sont d'accord pour dire que le processus GTDLD est maintenant totalement lancé et doit avancer vite. Le groupe de travail a bien l'intention de soutenir les personnes qui vont déposer des dossiers de demande et il faut les soutenir très rapidement. Le PDG a réitéré l'intérêt solide de l'ICANN d'avoir un rapport finalisé de la part du groupe de travail pour développer le processus de soutien. Donc, on nous met un petit peu une arme sur la tempe. Nous devons foncer, nous devons travailler vite pour travailler, puisque c'est en janvier prochain que seront lancés ces nouveaux GTDLD. Et nous avons besoin de faire beaucoup d'ici là. Le groupe de travail est donc sous pression pour accomplir son travail et sa mission avant le 12 janvier 2012. Et c'est un tableau chronologique serré et vous voyez tout le travail qui doit être effectué. Dans ce cadre, il y a des détails qui, selon nous, doivent être explorés d'une manière un petit peu plus précise. Le groupe de travail aimerait savoir ce que le GAC, le GAC, pense de ce point. Et on demande au comité consultatif gouvernemental de nous guider un petit peu dans nos différentes étapes, et ce, le plus tôt possible. Et j'aimerais maintenant passer la parole à mon collègue Sulibovic, qui a véritablement peaufiné le rapport et qui s'est bien assuré que nous ayons tout couvert. Evan Libovic a la parole. Oui, merci beaucoup, Carlton.
Avant l'interprétation entre anglais, français et espagnol dans cette chambre, we have interpretation in the ALAC room.
Nous avons l'interprétation anglais, français, espagnol, et toute personne qui veut s'exprimer dans ces langues est tout à fait le bienvenu. Je vais continuer dans la langue de Shakespeare. Bon, pour ne pas diminuer l'importance de notre sujet, ça a été une tâche très difficile, très compliquée, un tout petit groupe de travail a planché durement, et Kutramat, par exemple, toute cette équipe de rédaction a travaillé avec acharnement, avec très peu de temps. Et comme vous pouvez le voir, nous avons trouvé une méthode pour limiter le stress, puisque nous portons un petit peu des bonnets d'âne ou des oreilles de lapin sur la tête. Et plusieurs personnes nous ont rejoints. C'est un travail très difficile, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une attitude un petit peu plus décontractée aujourd'hui. J'aimerais vous donner un petit peu une mise à jour depuis ce qui s'est passé entre le GAC et les LAC. Il y a eu une évolution depuis dimanche, puisque nous avons eu ces réunions qui se sont tenues dimanche. La participation du GAC à ce processus n'a pas été facile parce que il y a une méthode de communication entre les différentes communautés et comme résultat, il y a une toute petite équipe qui a été assemblée avec des membres de At Large et également des membres du GAC, de ce comité consultatif intergouvernemental. Et je crois comprendre qu'il y aura également un communiqué qui sera lancé par le GAC aujourd'hui. Il y aura des instructions, il y aura des directives, par exemple, feront référence, comme cela a été dit, les critères de départ ne permettaient pas que les gouvernements demandent un soutien. Et en accord avec ALAC et les représentants du gouvernement, eh bien, on va suggérer peut-être d'être plus précis à ce niveau, puisque les gouvernements nationaux ne pourront pas obtenir un soutien, mais les gouvernements régionaux, beaucoup plus petits, donc pourront être en mesure d'obtenir un soutien. Donc, il y a d'autres recommandations possibles qui seront beaucoup plus spécifiques et nous pourrons voir le communiqué à ce niveau. Donc, Carlton a donc bien précisé la situation. Nous allons avoir un document à Dakar ou bien qui sera disponible avec les règles de programme en mois de janvier. Et nous avons une nouvelle fois une tâche très difficile et très sérieuse et très importante visant à prendre les informations qui avaient été distribuées au départ et en faire un document de mise en place de qualité. Et nous devons le placer dans notre manuel. Nous avons besoin de ressources du personnel. Nous aurons également besoin d'efforts de bénévoles et de volontaires. Je devais le dire, c'est très important. Je vais me limiter aujourd'hui et je vais vous laisser donc à tous la parole. Merci beaucoup, Evan. Nous avons donc le besoin que vous vous identifiez, puisque c'est une réunion officielle avec un scribe. Alan Greenberg, oui. Question rapide pour Evan. Par rapport au soutien pour les gouvernements municipaux, n'étant pas des gouvernements nationaux, donc pour les municipalités, est-ce qu'il y a des restrictions? Parce qu'il y a beaucoup de municipalités dans le monde en développement qui n'ont rien comme moyen financier, et je crois qu'ils devraient être éligibles à un soutien. Eh bien, pour le moment, les critères sont tels quels. Il y a des critères positifs. Nous devons répondre à ces critères. Il y a également des critères négatifs qui interdisent la possibilité d'obtenir un soutien. Ce que l'on fait, c'est de retirer les critères négatifs qui ne permettent pas d'obtenir un soutien. Donc, si vous rentrez dans les critères de besoin tels qu'ils ont été définis, eh bien, cela pourrait permettre à ces autorités gouvernementales, municipales, autorités municipales, municipalités, d'obtenir un soutien. Moi, je crois qu'il faut qu'on explicite un petit peu plus cela. Oui, je vois. En Californie, par exemple, avec leur déficit budgétaire, eh bien, peut-être qu'ils pourraient obtenir un soutien. Je ne sais pas. Il faut être sérieux. On doit peaufiner un petit peu ces textes et ces résolutions. Et moi, il me semble que nous ne sommes pas là pour soutenir Sacramento ou Hoboken pour qu'ils aient un nouveau nom de domaine. Mais, Sébastien et Avery. Sébastien Bachelet. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire que le groupe de travail jazz a fait beaucoup depuis le début, un effort fantastique, beaucoup de travail depuis les débuts de ce groupe de travail, et cela a été dit par Evan. Il y a certains rédacteurs qui ont travaillé plus que d'autres, mais il faut tous les applaudir, tous les remercier pour leur travail. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il est très important et très intéressant durant ce débat entre ALAC, le GNSO, le GAC. On ne peut pas attendre les conseils du GAC, mais il me semble que cette réunion entre ALAC et GAC doit être également vue comme un bon signe, un signe positif de débat dans l'organisation. C'est très positif, c'est très sain également, c'est une bonne chose, ce changement de pratique. Moi, j'ai une petite question en ce qui concerne le tableau chronologique, le calendrier. Moi, je crois me rappeler que on nous demandait d'avoir un rapport final avant Dakar pour être en mesure, à la suite, d'avoir un travail de mise en œuvre, une phase de mise en place, et cela nous permettra de travailler le plus rapidement possible avant le lancement de la phase d'application, parce que si ce groupe de travail essaye de trouver les meilleurs critères et se met en même temps à faire la mise en œuvre, ça c'est aussi le travail du personnel. C'est très complexe avec le GNSO, avec l'ALAC, c'est en débat, mais c'est deux choses différentes. Moi, ce que je préférerais, et j'espère que c'est la suggestion du conseil d'administration, c'est d'avoir le rapport avant Dakar pour pouvoir mettre cela en œuvre. Donc, un point qui doit être important dans le débat, c'est au niveau des frais. Lorsque nous devrons passer en revue les dossiers de demande, eh bien, on verra le personnel, le calendrier, les moyens, et on devra prendre tout cela en compte pendant le processus formel. Et il faudra donc bien voir qu'on n'ait pas de doublons, qu'on ne fasse pas deux fois la même chose, parce que si on analyse le dossier de demande pour un applicant défavorisé, il faut s'assurer qu'il remplisse bien les critères, et ces critères seront très utiles de par la suite de la procédure de dépôt des dossiers de demande. Je veux être sûr qu'on soit tous au diapason, et je veux absolument m'assurer que tout le monde, l'ALAC, le GNSO, board, le directoire, eh bien, que tout le monde soit sur la même page. Merci.
Merci, Sébastien. Je passe la parole à Evan. Très rapidement pour répondre, Sébastien. Concernant le tableau chronologique, nous allons faire des demandes très spécifiques aux personnes pour obtenir le soutien nécessaire. Ce que vous dites est nécessaire. Aussi, il y aura un effort de ne pas refaire le travail qui est déjà fait dans le manuel des candidats. Ça existe et on peut se référer à cela s'il y a des tests et des évaluations qui sont déjà mentionnés dans le manuel du candidat. On ne va pas refaire cela. On se référera toujours à ce qui est déjà fait et ajouter seulement s'il y a un besoin d'évaluer les besoins. Je suis désolé, c'est juste pour suivre, c'est l'inverse. Je sais que je suis d'accord que vous allez prendre ça en considération, mais lorsqu'il y a une évaluation, j'espère que ça sera fait pour déterminer si le candidat défavorisé est conforme à toutes les normes. C'est l'inverse de ce que vous faites. Nous avons développé un flux de travail pour harmoniser le processus du candidat Jazz et avec le processus du manuel. Et je pense qu'on essaie de voir comment on l'harmonise. On est très conscient et pour nous, c'est présent dans notre travail. Je retourne au national et la clause parastatale. Il y avait, comme c'est tout souvent le cas dans les groupes où je travaille, il y avait au moins une objection. On n'était pas à l'aise à aller de l'avant avec ça. Et donc, je suis content de voir qu'il y a d'autres préoccupations et qu'il y a toujours le besoin de discuter exactement comment ce type de changement va être inséré et dans quelle mesure ils vont être insérés. Nous avons une liste, oui. Tony, pour ceux qui sont derrière moi, si vous voulez, être sur la liste, tapez-moi sur l'épaule et je vous ajoute sur la liste. Je m'appelle Tony Harris. Je suis membre de ce groupe, mais j'ai été absent pendant plusieurs mois. J'ai travaillé sur un projet en dehors du bureau. On a eu une réunion mardi de la ISPC et ce regroupement, et nous avons étudié le deuxième rapport, grand rapport. Il y a une chose qui nous a beaucoup intéressé comme regroupement, hein, et c'était la mention qu'on n'allait pas demander aux candidats dans ce programme de mettre en œuvre IPv6. C'était un peu surprenant. Surprenant parce que peut-être vous n'allez pas avoir un choix, parce que le IPv6, ce ne sont pas si abondants que ça, et rapidement de moins en moins. Deuxième chose, pourquoi ça devrait concerner un registre d'un candidat défavorisé? Ça, c'est quelque chose qui concerne le fournisseur de services Internet qui va offrir connectivité au registre ou au back office et éventuellement pourrait être une préoccupation du fournisseur de back office. Mais on ne voit pas, on ne comprend pas comment ça pourrait avoir un impact sur le candidat défavorisé, au moins sur une base technique, en ce qui concerne les coûts en Amérique latine, on peut avoir des adresses IPv6 sans frais. C'est considéré pour l'avenir une chose expérimentale et nécessaire. Et l'ACNIC ne fait pas payer pour ces boîtes d'adressage. Je voulais juste vous donner ce commentaire. Puisque vous allez rédiger le rapport final, ça vaudra peut-être la peine de réétudier cela parce que ça ne me semble pas tout à fait logique. Est-ce que je peux demander à Eric Brunner-Williams, qui est membre de l'équipe, pour répondre? Eric, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Président. Tony, cette exigence est dans le manuel du candidat. C'est une exigence de politique qui est indépendante de différents regroupements. C'est quelque chose qui ressort de la politique consensuelle de la GNSO. L'exigence peut être deferred parce que ce service n'est pas disponible dans différentes régions du monde. Les équipés par 4 adresses sont réservées pour des infrastructures critiques. Nous pensons que cette proposition sera adoptée. Les registres sont des infrastructures critiques. Alors, en arrivant au régime où on... j'espère que ça vous aide à comprendre. Les IPv6 ne sont pas toujours disponibles et nous ne voulons pas que l'exigence à limiter les registres dans le monde où les IPv6 n'est pas disponible. Bon, s'il vous plaît, Tony, je veux remercier Tony pour cette réponse. Merci de cette clarification. Non, sur ce sujet, je veux ajouter deux choses. L'exigence IPv6, mes connaissances, n'est pas sortie de la politique GNSO, peut-être d'une autre politique, mais ce n'était pas partie de la politique GNSO. Une autre chose, il y a eu une discussion sur, pour pouvoir dire si c'est important pour les IRI qu'il y ait cette connectivité, qu'ils garantissent la connectivité pour ceux qui en ont besoin dans les régions où il n'est pas actuellement disponible. S'il y a donc un vrai problème concernant l'élimination de cette exigence, peut-être, mais ce n'était pas une exigence mise là par le GNSO, à mes connaissances. Bill Woodcock est ici, de RN, et il aimerait intervenir. Bon, rapidement, il n'y a pas de possibilité pour les registres régionaux d'acheter transit pour d'autres. Les registres Internet régionaux sont pro-IPv6 dans leur déploiement, mais ils le font par le biais du processus de la politique et pas par les subventions financières à des récipients spécifiques. Ce que vous allez voir en Afrique et ailleurs, vous allez voir les IPv6 sans coût pour une certaine période du temps. Aaron et Epinik, Aaron et je pense Ripe et Epinik, avaient cette politique pendant une phase initiale de testing et l'ont graduellement éliminée. Et donc Aaron est, je pense, dans sa quatrième année d'une période d'élimination de subventions pour les IPv6. Carlton Samuels. Je m'appelle Wolf Ulrich Nobin. Je suis membre du conseil GNSO. Je suis un des membres du conseil qui a posé des questions dans ce rapport. Vous m'entendez? Désolé. Je vous remercie que vous avez fourni des réponses à mes questions. J'ai deux commentaires en plus de ce qu'a dit Tony Harris. Moi, donc pendant cette discussion dans notre regroupement, j'ai vu que le rapport demande des waivers techniques concernant IPv6 et un autre en ce qui concerne le DENSEC. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je tiens à vous dire que pendant la période de commentaires publics, nous allons retourner à ces questions et spécifiquement, on va voir si les questions liées à la sécurité et la fiabilité sont touchées dans cet égard. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on va revenir à cette question plus tard. Ça, c'est un point. Deuxième point, que j'aimerais retourner à ce que George Sadowski disait dans son discours lundi concernant la question du financement. ICANN va ouvrir cette bouteille de financement un petit peu et vous êtes revenu avec des commentaires du GAC, c'est-à-dire d'ouvrir davantage la bouteille de financement. C'est la crainte que George exprimait. Personnellement, je partage cette crainte. Si vous commencez maintenant à ouvrir cette bouteille de plus en plus, vous allez avoir une masse de débats concernant comment gérer ce que vous voulez faire et comment arriver à la fin. Bon, je souligne ce point et je vous demande de le discuter de façon profonde avec beaucoup de diligence. Merci, Wolf. Ensuite, Mohamed. Je m'appelle Mohamed Diop, je viens du Sénégal et du regroupement des registraires. Je suis aussi, je fais partie aussi du registre pour Afnika. Mon souci est que, d'abord, je veux féliciter le comité jazz pour le grand travail qu'ils ont réalisé. Sérieusement, pour un environnement comme ICANN, où il est difficile de parler de réduction des coûts et soutien financier pour certains groupes, je vous félicite et je vous dis merci de cette réalisation. J'aimerais qu'on regarde une chose. Dans les pays en développement, nous parlons tous des candidats de nouveaux GTLD. Pour les nouveaux GTLD. Et sérieusement, même si vous parlez d'intégration verticale entre le registraire et les registres, je veux soulever un point fondamental que dans notre marché, rien ne va se passer dans les pays en développement si le commerce à des registraires n'est pas adressé en termes de facilité. Je veux être clair. Tout ce qu'on peut avoir au niveau des GTLD, tout ce que nous essayons d'établir dans la politique des GNSO, la protection pour les registraires, les mécanismes que nous voulons mettre en place, si dans le marché il y a 4, 5, 6 niveaux de revendeurs qui n'ont pas de contrat qui les lie, tout ce que nous essayons de faire est sans utilité parce que le registraire ne sera pas protégé et s'il n'est pas protégé, le marché sera comme une soupe. Et les règles ne seront pas appliquées correctement. Pour moi, ce que le jazz a réalisé comme engagement de l'ICANN, si vous n'avez pas des registraires et vous permettez aux nouveaux candidats pour les candidats pour les nouveaux GTLD, si vous avez le nouveau GTLD avec un ticket pour fonctionner dans le marché, rien ne va se passer. C'est quelque chose qu'il faut étudier. À la fin du jour, ce que le jazz veut réaliser est que notre effort soit efficace pour notre communauté en développement. Le modèle que nous avons est registraire-registre. Même si nous avons intégration, mais dans les pays développés, c'est logique, mais en Afrique, nous n'avons que 4 registraires accrédités par ICANN. Imaginez, 900 millions de personnes et seulement 4 acteurs, 4 registraires devant les consommateurs. Comment allez-vous réaliser la protection si vous savez que les registraires dans le marché africain ne vont pas opérer directement, ils vont signer, il y aura 5, 6, 7 niveaux supplémentaires et le prix va augmenter. Donc, je vous le dis, c'est une extension, ce que je vous dis est une extension du groupe de travail qui essaie de faire les réductions de coûts pour générer davantage de registraires, les aider à prendre davantage d'initiatives. S'il vous plaît, mettez ça comme une extension de votre mandat. Ça va nous aider beaucoup dans notre travail dans les pays en développement. Eric Brunner-Williams a indiqué qu'il aimerait répondre spécifiquement à ce point. Et ensuite, Alain, merci, Monsieur le Président. Mohamed, merci beaucoup. Je croyais qu'il n'y avait que 3, 4, c'est un peu mieux. Je crois qu'il n'y a que 6 en Amérique latine. L'absence de registraurs dans les pays en développement est un manque critique pour élargir le modèle des registraires-registres. Je considère et j'apprécie beaucoup vos commentaires. Merci, Eric. Alain, 3 points rapides. Sur ce qu'a dit Sébastien, et je crois que nous ne l'avons pas du tout discuté. On parle d'un programme pour évaluer et fournir un financement ou un avantage, un financement aux candidats défavorisés. Ce programme va coûter de l'argent et nous n'avons jamais parlé de qui finance. Ces 2 millions de dollars, si ça existe vraiment, pourraient être mangés dans l'administration du programme et rien restera pour les candidats. Il faut, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider aujourd'hui, mais il faut le prendre en considération. Ça, c'est numéro un. Ouvrant ceci aux municipalités et à d'autres candidats comme ça, j'ai souvent dit que même si on veut aider les gens, avec ce premier tournée, il va falloir choisir un petit groupe de candidats qu'on va aider. La somme que nous avons à notre disposition sera limitée et plus vous avez de candidats, moins chacun va recevoir. C'est un jeu zéro-somme et il ne faut pas oublier quand nous essayons d'aider les candidats. Dernier point concernant les registraires. La question a été soulevée plusieurs fois et normalement la réponse est que oui, nous avons permis l'intégration verticale, alors le registre peut être leur propre registraire. Très bien, mais si vous, registrante, vous prenez vos domaines d'un certain vendeur et ils ne l'ont pas, ce registre va trouver de la difficulté à survivre s'ils sont le seul vendeur de leur propre domaine. Donc, il faut étudier cette question aussi. Carlos, c'est à vous, et ensuite George, et puis Avery. Merci, Carlton. Carlos Ayure, GNSO nommé par un ANCOM. GNSO a travaillé beaucoup pendant une année, plus d'une année, et lorsque j'ai activement participé au mois de décembre, quand j'ai accepté cette responsabilité, je tiens à exprimer un seul souhait. Après la résolution du directoire lundi, le temps s'est raccourci. Nous devons pousser pour arriver avant que ça soit trop tard. Il y a beaucoup de candidats défavorisés qui ont besoin du soutien et ils sont très anxieux. J'ai eu la possibilité de parler avec beaucoup d'entre eux. Ces candidats défavorisés sur, par exemple, des questions spécifiques comme la réduction des coûts, ils n'ont pas d'informations encore, il n'y a pas de définition. Je pense que le groupe de travail n'a pas de doute. En fait, le groupe de travail a des certitudes Encore une fois, nous devons aller de l'avant, suivre le processus, afin de donner aux candidats défavorisés ce qu'ils nous demandent aussitôt que possible. Et lorsque le directoire ICANN reçoit les demandes, ils peuvent résoudre définitivement ce que les candidats dans le besoin ont besoin. J'aimerais soutenir l'intervention de Mohamed. Nous avons besoin de registraires locaux. C'est un grand besoin. Un exemple est fourni par le département de Homeland Security aux États-Unis. En 2008, un agent de voyage britannique qui vivait en Espagne a publié des voyages pour les citoyens anglais. Le site web était en Espagne et le U.S. département de Homeland Security, puisqu'il a parlé de Cuba, est devenu au courant et le registrar était registré avec un registrar américain. Ils ont démonté le registre. Le site a été démonté et il était ruiné. Si vous n'avez pas des registraires dans ces pays, vous bloquez implicitement. Comment puis-je dire? Vous ne donnez pas le contrôle de votre site web. Vous n'avez pas le contrôle de votre site web dans ce pays à des agents étrangers. Georges, oui, je vous comprends. Mais ma seule question, je retourne à ma question originale. C'est un manque de... Je dis que si c'est quelque chose qu'il faut faire, ce n'était pas dans la charte. On ne sait pas comment le payer. Si nous devons prendre ceci en considération, très bien. Je ne vais pas trop insister sur des formalités, sur des procédures. Ce n'est pas mon truc. Les autres peuvent faire ça. Mais il y a également la question que nous n'avons pas traité de ce sujet parce qu'une personne nous a demandé de le faire. Ce n'est pas dans notre charte. Si ça doit être dans le cadre de nos activités, on doit nous le dire, et rapidement. Je crois qu'il faut le décider, pas être informé, mais le décider. Bon, nous avons sur la liste Avery, Andrew, Sébastien. Je ne vois pas pourquoi ce n'est pas dans le cadre de nos responsabilités. Personne n'a spécifiquement dit ce qu'on peut faire et ne pas faire de recommandations. Je crois que l'idée des registraires défavorisés est une chose. Je retourne à d'autres discussions où il y avait des exigeants comme le IPv6. Ça signifie que peut-être nous allons avoir des registres dans des pays en développement, mais ils vont être obligés d'utiliser les fournisseurs de registraires pour le IPv6. Donc, il faut avoir des registres et les registres plein service ou les fournisseurs de registres dans l'économie pour que tout ne doit pas retourner au nord. On pourrait peut-être avoir des adresses IPv6 dans ces régions, mais vous n'allez pas avoir accès à l'IPv6. Combien de fournisseurs de registres dans les pays en développement? Je crois que c'est zéro. Peut-être il y en a d'autres dans les TCCLD qui pourraient fournir un service de registre. Et en ce qui concerne le registrar, c'est peut-être une solution. Ça coûte plus d'argent. Pour une boutique du Nord qui ne va pas avoir un registrar, ça c'est peut-être une solution, mais il va falloir offrir un financement. Je pense que c'est dans le cadre de nos responsabilités, mais il faut que ça soit soutenu. Sur le même sujet, les commentaires de Mohamed et puis Katim. Merci, Président. Juste pour voir ces deux points de vue, si vous regardez le nouveau mandat du JAS, d'aider les candidats des nouveaux GTLD dans les pays en développement. Si vous prenez en considération l'intégration verticale, vous avez deux situations. Une situation est le candidat GTLD à la fonction de registrar et registre, parce qu'on peut dire que c'est dans le modèle, mon modèle commercial, et le soutien donné par le groupe de travail aux candidats est dans le cadre de votre mandat initial. Deuxième chose, si vous regardez tout le marché des nouveaux GTLD, si on veut soutenir la durabilité du système, on ne veut pas les aider à lancer une affaire et puis qu'ils entrent dans la banqueroute. S'il n'y a pas de GTLD dans les pays en développement, mais si un nouveau GTLD existe et il n'y a pas de registraire dans la région, c'est comme les demander à entamer quelque chose sans avoir une chaîne de distribution. Dans les deux cas, ça nous voulons soutenir les candidats qui vont survivre et servir la communauté. Et pour moi, il est très facile de parler de ce composant, même si nous savons que l'intégration verticale n'est pas nécessaire, mais c'est une fenêtre ouverte s'ils veulent le faire. Dans le marché africain de développement et dans d'autres, ça ne sera pas le rôle, parce qu'ils ont besoin de plus de personnes impliquées dans tout le processus. Et la communauté ICANN est forte à cause des communautés de soutien et le fait que nous n'avons pas de communautés de registrars qui sont forts dans les pays en développement, ça ne va pas nous aider à obtenir nos objectifs dans ces pays. Il y a d'autres questions? Oui. Chuck Holmes, merci beaucoup. Je parle personnellement. Peut-être je parlerai comme registre. Je veux répondre à cette question de cadre de vos responsabilités. C'est très facile comme question. S'il y a des doutes, demandez aux deux organisations de charte et en même temps, posez la question s'il est approprié d'ajouter cette responsabilité. C'est toujours une option dans les groupes de travail du point de vue du GNSO. Ce n'est pas un obstacle, simplement demandez. Première chose que je voulais vous dire est que juste avant cette session, j'avais une discussion avec Dennis Jennings et on parlait du jazz. Et je vous encourage de le contacter parce que les fonds, 2 millions ou plus, qui traitent ces fonds, qui les gèrent, je ne vais pas répéter ce que Dennis a dit, parce qu'il a partagé ses commentaires avec moi, mais c'était très utile. Je vous encourage de contacter Dennis avec... Il a des idées. La question est fondamentale. Des questions comme est-ce que ICANN devrait gérer ses fonds ou est-ce qu'un organisme indépendant devrait les gérer? Contactez Dennis donc. Obtenez son point de vue, je crois que ça serait très utile. Je m'arrêterai là et je retourne à des questions, à d'autres questions par la suite. Il y a Cathy maintenant. Oui, c'est Cathy, et ensuite Andrew. Cathy, allez-y. Je serais heureux, merci Rafik, je serais heureux de céder la parole à Sébastien s'il était déjà sur la liste. Allez-y. Merci, merci. Je ne suis pas trop tout à fait d'accord et je vais être un peu provocateur. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de planches sur la table, de pain sur la table. La question de registrar dans les pays en développement, c'est une vraie question difficile et je ne pense pas qu'il faut ajouter ça dans le groupe de travail parce que, et pas dans ce groupe de travail spécifiquement parce que la question du registrar doit être traitée de façon plus large, mais ça viendra après. Ça viendra après la décision de comment nous allons soutenir le candidat défavorisé. C'est une partie de la réponse. Nous n'allons pas résoudre cette question généralement. Deuxième point, j'adore cette question sur les registraires. Mais j'espère que vous allez demander pourquoi ICANN, levez votre main et dire pourquoi ICANN ne peut pas. Pourquoi il augmente le coût pour devenir un registraire? J'étais parmi ceux qui ont dit que nous n'avons pas besoin que ça de cela dans les pays en développement. Je ne me souviens plus du coût. Mais pour augmenter le coût pour devenir un registraire, si on devient registraire dans un pays, s'il venait aujourd'hui avec ce problème, il faut ramener le coût à ce que c'était pendant cet exercice et pas pour l'année suivante. Je sais que des membres du directoire ont des idées, vous avez des idées. J'essaie toujours de leur dire qu'il y a un groupe de travail, il faut participer dans ce groupe de travail. Ce n'est pas le groupe de travail qui doit aller voir tout le monde dans la communauté. Eux, ils doivent venir nous voir et participer s'ils ont quelque chose à nous dire. Ils doivent participer dans le travail de Wooden. Ils viennent pendant 5 minutes, ils nous appellent, n'importe. Sinon, je ne sais pas comment le groupe de travail pourrait faire son travail. C'est trop de travail. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Sébastien. Nous avons Andrew, nous avons d'autres personnes également. Et nous avons également une question qui sera posée à partir de l'Internet. Donc, veuillez, s'il vous plaît, être concis, poser des questions courtes, parce qu'il ne reste que peu de temps, environ 50 minutes pour cet atelier. Donc, oui, merci beaucoup. C'est Rafik ici. Donc, c'est un travail tout à fait remarquable qui a été effectué. Et j'aimerais commenter très rapidement au sujet du soutien pour les dépositaires de dossiers pour tout le travail que vous effectuez. Et il me semble qu'il s'agit d'une idée tout à fait remarquable. Mais il faut faire très attention également, ça peut être une grande distraction, parce que, comme cela a été mentionné, si les règles sont un petit peu plus souples et moins respectées, eh bien, il faut prendre cela en compte dans le groupe de travail JAS. Et je crois qu'il faut mettre l'accent sur la mission essentielle de ce groupe et sur ces nouvelles applications GGTLD, et je crois qu'il faut que plus de registres fassent partie du dialogue, fassent partie du rapport qui existe avec l'ICANN dans les pays en voie de développement. On a mentionné hier que nous avons une réunion de préparation sur un sommet à Dakar, à ce sujet, pour le rapport avec les pays en développement. Plutôt que d'avoir un sommet, nous allons avoir un petit groupe de travail pour définir un concept qui permettra de bâtir un partenariat plus solide avec les pays moins avancés, ce qui signifie que nous pourrons préparer un sommet plus important par la suite. Donc, c'est très important d'avoir beaucoup de registres qui proviennent des pays moins avancés. Et à Mexico City, dans la ville du Mexique, capitale du Mexique, nous avons entendu parler de beaucoup de personnes qui provenaient du monde en développement. Et la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous êtes partie prenante du processus. Et si nous avions plus de registres provenant du monde en développement, ils pourraient se permettre de venir ici à leurs frais. Donc je crois que c'est un véritable besoin qui existe pour ces registrants et ces registraires provenant de pays en voie de développement, comme l'a dit Sébastien. Nous devons gérer ces fonds de soutien. Je suis tout à fait d'accord avec cette suggestion. Je crois que c'est difficile pour le groupe de travail JAS de communiquer avec tout le monde. Bien sûr, tout le monde est en mesure de se joindre à nous. Bien sûr, vous avez les droits de déterminer comment vous fonctionnez. Merci beaucoup, Katim. Donc, il faut qu'on avance un petit peu. Oui, Katim a souligné quelque chose de très important. L'argent, les fonds. Plus on va faire, plus ça va coûter. Les 2 millions de dollars que nous avons, on peut démarrer avec cela. C'est un fonds de lancement qui peut nous permettre d'attirer plus de fonds. Mais 2 millions de dollars, vous savez, ça ne va pas aller très loin. Donc, la question que je veux poser, c'est que, est-ce que nous voulons dire oui, est-ce que c'est un bon départ, mais ça ne va pas suffire. Il faudra penser à l'avenir, trouver d'autres donateurs qui vont vouloir avoir un rôle dans la gestion de ces procédures. Et donc, avec tout le respect que je dois au personnel de l'ICANN, il me semble que 2 millions de dollars, ça ne va pas aller si loin que ça. Et qu'il est extrêmement important qu'on ait une grande durabilité à ce niveau. On aura toujours des besoins de financement, mais on a besoin également de lignes de conduite sur la réduction des prix. Et on doit s'assurer de ne pas donner aux personnes l'impression que ICANN nous a écrit un chèque de 2 millions de dollars. Donc nous avons quelqu'un qui est en ligne. On va essayer de... Oui. Cette question provient de Doué Afrida. Les investisseurs des pays en voie de développement qui vont proposer un nouveau GTDLD, est-ce qu'ils vont avoir des rabais? Est-ce qu'on va gérer cette possibilité éventuelle qu'ils aient un rabais s'ils sont des développeurs de pays en voie de développement? Oui, on essaye... on essaie de limiter quand même cela parce que ça nous semble que c'est un petit peu illicite d'utiliser cette possibilité. Oui, j'aimerais rebondir sur quelques points. Le besoin de registraires du monde en développement, je suis absolument d'accord pourquoi ce groupe indique cela, mais j'aimerais également indiquer que si vous remettez cela plus tard, cela... peut poser des problèmes. Il faudrait qu'on trouve un moyen de reconnaître ce besoin. Moi, je ne crois pas qu'il faut attendre à ce niveau parce que le temps qu'il va falloir pour trouver des registraires qui vont se mettre à fonctionner va être assez long. Et s'attendre à ce que ces personnes viennent à vos réunions et puissent se faire entendre. Eh bien, nous avons tous beaucoup de conflits. Dans le cas de Denis, il a une autre réunion où il doit se rendre. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas être là. Donc, s'il vous plaît, il y a des personnes qui ont de bonnes idées et qui peuvent les apporter. Oui, j'aimerais mentionner que nous avons également un espace wiki qui est disponible... dans le cyberespace. Nous avons 2 téléconférences les mardis et mercredis. Donc, il y a beaucoup de possibilités de faire des interactions et de les avoir. Nous sommes d'accord pour accepter que nous allons faire le maximum. pour ajouter de la valeur à ce que nous effectuons. Eric, vous avez la parole, monsieur. Merci, Eric. Eric Brunner-Williams, j'aimerais répondre aux membres du directoire qu'a-t-il Sébastien, Georges. Le problème, ce n'est pas seulement les droits de dossier de demande. Le soutien de la continuité est également essentiel pour ces dépositaires de dossiers. Il faut éviter des échecs. C'est pour cela qu'il faut bien gérer la situation. Il faut anticiper les échecs éventuels. Nous avons un objectif. Et nous avons ces prestataires de services qui ne sont pas obligatoirement toujours en Europe, en Amérique du Nord. Et les marges doivent rester dans les pays en développement. Il faut que l'on fasse quelque chose au niveau des registraires qui sont pratiquement toujours dans des économies développées. Les marges, donc, partent, les profits partent vers les pays avancés. Cela n'est pas normal, cela n'est pas durable. C'est un problème de continuité également. Et donc, nous voulons absolument que les marges restent et les profits restent dans les pays moins avancés. Alan et Jimmy. Oui, je voulais faire un dernier commentaire avant de parler des problèmes de registraire. Je crois que nous devons mentionner qu'il s'agit là d'un point tout à fait critique. On n'a pas besoin de proposer une solution, mais il est essentiel que dans notre rapport, nous parlions du problème. Il y a un délai, en effet. La date limite n'est pas la même. Et nous devons mettre cela en œuvre d'ici le mois de décembre de cette année, mais nous devons vraiment tirer un petit peu la sonnette d'alarme. Oui, merci beaucoup, Jimmy Wagner. Avec le groupe GNSO et partie prenante ISP. J'aimerais me faire l'écho de ces considérations. Sébastien a également parlé de la possibilité de plus soutenir ces personnes. Et le problème des frais qui sont plus élevés pour les registrants, je crois qu'on a besoin d'une recommandation visant à limiter ces frais d'entrée pour les économies moins avancées. Et pour ces registrants, pour qu'ils puissent opérer dans leur propre région et qu'ils n'aient pas à vendre à l'étranger, et que l'argent reste en effet dans les pays moins avancés. Merci Jimmy. Plus personne ne veut prendre la parole, pas d'autres commentaires. Je ne sais pas derrière moi. Il nous reste 5 minutes pour cet atelier. On pourra avoir plus de feedback maintenant. Si l'on nous devons travailler avec Carlton, et j'aimerais rappeler aux personnes que nous avons des commentaires publics et qu'on peut avoir un bon feedback aujourd'hui, mais que cela va peut-être... Oui, un autre commentaire, Carlton? Oui, vraiment, Rafik, merci. J'aimerais me faire l'écho des commentaires qui ont été effectués aujourd'hui. Nous savons que le soutien de Jazz, donc, est également pour tous, mais le problème n'est pas tout à fait réglé, et ça, c'est très important, il faut le dire. Il y a ce problème des registrants dans les économies en développement et l'impact que tout cela aura pour la continuité et le problème de durabilité également, problème plus stratégique. Nous essayons de développer des économies ici et il faut faire le maximum pour que ces fonds restent dans ces économies. Cela va nous aider à garder la durabilité de ceci. C'est tout à fait significatif et nous voudrions vous remercier d'avoir soulevé ces problèmes. C'est tout à fait significatif. Le travail du groupe Jazz continue et nous avons jusqu'à Dakar pour finaliser un rapport parce que nous avons ensuite entre Dakar et le mois de janvier que peu de temps. On a donc besoin d'un beaucoup de soutien du personnel. Ça doit être une situation complexe. Nous vous implorons tous, ayant cela à cœur, veuillez s'il vous plaît utiliser la période de commentaires publics qui est très importante, que nous suivrons de près ces commentaires. Chaque commentaire sera pris en compte pour finaliser le rapport. C'est important de bien comprendre que si vous ne pouvez pas utiliser le wiki, nous avons deux téléconférences hebdomadaires le mardi et le mercredi. Oui. Et à 13h en temps universel. Et on a toujours besoin d'avoir des réunions publiques. Tout est enregistré. Tout peut donc être suivi. Tout est transparent à notre niveau. Donc, Katim, oui, il y a une question en ligne. Vous voulez commenter, Pregna? Oui, c'est le commentaire au sujet des registraires. Nous avons ce modèle qui a quoi 11-12 ans et... La situation a changé depuis. C'était pour la stabilité d'ICANN que nous avions lancé cela. Maintenant, nous devons penser en termes d'un nouveau modèle avec plus de solutions et également voir les problèmes qui existent. Nous devons utiliser cette étude de cas pour trouver un modèle et je crois que nous devons prendre nos responsabilités dans le cadre de ICANN pour tous ces registrants et registraires pour qu'on puisse avoir des entreprises africaines, des entreprises asiatiques, pour que le processus soit bien clair, que ce ne soit pas uniquement les pays développés, les régions développées qui bénéficient de cela. Oui, Matashwani, une question qui vient de Fazul Hasan du Bangladesh qui nous demande au sujet des GTLD. Est-ce qu'il va y avoir des préférences, par exemple, pour DOT South Asia? Oui, je ne sais pas qui pourrait répondre à cela aujourd'hui. Si vous suivez cela sur le site web, eh bien, je crois que Evan va peut-être réagir. Ou la manière dont on a géré cela. À chaque fois qu'il y a un dossier de demande, que ça vienne d'une coopérative ou pas, c'est moins pertinent et c'est le dossier de demande en soi. Donc il y a des exemples spécifiques, par exemple pour l'Asie du Sud-Est, un des critères, c'est que les dossiers de demande pour les noms géographiques et les chaînes à des exclusions. Donc, on ne peut pas obtenir cette chaîne selon les critères actuels. Donc ça, c'est possible, c'est faisable. Et c'est le dossier de demande en tant qu'unité qui est pris en compte dans les critères. Qui est derrière cette demande? Oui. Donc, vous allez avoir le dernier commentaire. Oui, merci beaucoup, Carlton. J'aimerais mentionner qu'il s'agit d'un des domaines où nous travaillons avec le GAC. Et on nous aide beaucoup à ce niveau. On obtient un soutien pour les pays en développement. Merci. Et c'est très important et très nécessaire. Oui, eh bien. Je crois que nous avons plus de temps. Le temps s'est écoulé. Et je crois qu'il y a une participation qui a été remarquable à cette séance. Et je crois que cela a été très utile pour mieux comprendre les besoins au nom de Michael Chair du Danemark et également des membres du groupe de travail Jazz. J'aimerais vous remercier profusément pour tout le soutien que vous nous avez prodigué. J'aimerais remercier également le personnel. J'aimerais remercier Glenn. J'aimerais remercier Matt. J'aimerais remercier Seth. Et bien entendu, Gisèle, qui nous a permis de faire en sorte que cette réunion connaisse le succès. Nous levons la séance. Et nous arrêtons l'enregistrement.